si Dieu veut, Leilou Nishmat, Avinoam Fradji, pardon, Ben Simcha, donc le papa de Monsieur Akos qui nous a quittés il y a 10 ans. En fait, je dis nous a quittés, mais on sait très bien qu'un proche ne nous quitte jamais, il déménage et il continue à prier pour nous en haut, encore plus que ce qu'il le faisait lorsqu'il était en bas. En plus, il faut savoir que dans le judaïsme, on célèbre les dates rondes. Donc, c'est pas juste stam, une coutume. Donc, puisque ça fait 10 ans, ça veut dire que maintenant, la Neshama, elle marque un nouveau millésisme. Et qu'elle est en train de, elle est en train de monter encore plus. Alors, il est Nifta, hein, monsieur, non, donc, Baruch Atah Elohim Shakam Yitzvaron. Monsieur Avinoam Fradji Ben Simcha est Nifta dans une semaine très particulière. Il est niftar dans une semaine, j'ai envie de dire en sandwich, entre deux tzadikim. Entre Rabbi Meir Balanes, hier, et jeudi, Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai. D'habitude, le lundi soir, on fait cours le Tanya, mais j'ai pensé, comme on fait à l'approche des fêtes, et pour moi, Lag BaOmer, c'est une fête, j'ai pensé qu'il faut qu'on se prépare un petit peu à cette fête pour comprendre. Qui est Rabbi Shimon? Donc le titre du cours d'aujourd'hui, c'est le paradoxe de Rabbi Shimon. Qui est Rabbi Shimon? J'ai envie de dire qui était, mais en fait, on va voir que c'est qui est Rabbi Shimon jusqu'aujourd'hui. Quel impact il a sur nous? Et pourquoi tout le monde fête autour de Rabbi Shimon? C'est important d'étudier ça, en particulier en cours de Tanya, puisque en cours de Tanya, on rentre dans les profondeurs de la Torah. Et le premier qui nous enseignait les profondeurs de la Torah, c'est qui? Le premier qui a rendu ça accessible. Un petit peu, il a commencé à rendre ça accessible. C'est Rabbi Shimon. Après, ça a été développé par la suite, par Rabbi Abba, Rabbi Chiya, le Harizal, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, on va arrêter notre course, on va s'arrêter sur la personnalité, le paradoxe de Rabbi Shimon. Et je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça un paradoxe. La personnalité de Rabbi Shimon nous touche à tous. D'un côté, on sent que c'est un très grand tzaddik, que c'est un tzaddik d'une autre ligue. On sent que j'ai pas envie de dire, il y a les autres et Rabbi Shimon, parce que j'ai pas de problème avec les autres tzadikim. Mais on sent que Rabbi Shimon, c'est autre chose. C'est une autre ligue, c'est une autre dimension. C'est un tzadik qui est très très élevé. C'est un tzadik qui, en plus du fait qu'on le retrouve dans la Gemara, c'est lui qui est à la base du Zohar. Et donc, d'un côté, on sent que Rabbi Shimon, on se sent très très loin de lui. On sent qu'il nous dépasse, mais de très 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 loin. Et d'un autre côté, on se sent très proche de lui. Il n'y a aucune Iloula qui est fêtée comme le Rabbi Shimon. Si vous allez cette semaine à Méron, ça a déjà commencé maintenant, mais bon, les festivités vont surtout battre leur plein à partir de mercredi, jeudi, mais il y a déjà du monde maintenant. On parle de centaines de milliers de personnes. D'après les estimations, selon les années, bon là, ça dépend des conditions météorologiques, etc. Ça tourne entre 600 000 personnes et 1 million de personnes, selon si c'est un jeudi, un dimanche, etc. Il n'y a aucune Iloula, et je vais vous dire, c'est une Iloula qui est tellement forte, au point que l'État d'Israël, qui est pourtant pas un État religieux, un État laïque, a déclaré le jour de l'Lag BaOmer comme un jour où les enfants n'ont pas école. Donc on n'a jamais vu ça. Vous avez vu ça que l'anniversaire de départ d'un tzaddik soit un jour qui est en pleine semaine, un jeudi, soit un jour qui est fériérisé. Hein? Ça n'existe pas, ça. Même en Israël, pour aucun autre tzaddik, on a fait ça. Et quand vous allez là-bas, vous allez à Rabbi Shimon, qui vous voyez toutes sortes de personnes. Vous voyez des chassidim, vous voyez des lituaniens, vous voyez des gens en shorts, vous voyez des gens en jeans, vous voyez des gens avec des pins, vous voyez des gens avec des boucles d'oreilles, des hommes avec des boucles d'oreilles. Vous voyez des gens avec kippa, des gens sans kippa, des gens qui font des grillades, des gens qui prient, des gens qui pleurent, des gens qui mangent, des gens qui dorment. Et il y a un grand tchouk-tchouka comme ça, qui est en vérité un cliché réel, d'accord, en temps réel, de ce que l'homme Israël. Ça veut dire que Rabbi Shimon est une personnalité qui a touché tout le monde. Et donc, comme je disais, on est un peu embêté, pas embêté, mais on est un peu bloqué quand on parle de Rabbi Shimon, et ça va être le thème d'aujourd'hui. D'un côté, on sent que c'est un personnage qui nous dépasse de très très loin, et d'un autre côté, on se sent très proche de lui. Alors, qui est Rabbi Shimon? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très loin de nous, ou très proche de nous? Cet après-midi, je parlais avec David, et David Assuen, et David, il m'a dit, oui, mais Rabbi Shimon, c'est bien beau. Rabbi Shimon, c'est bien beau. Mais comment ça nous parle dans la vie de tous les jours? C'est une très bonne question ce qu'il pose. Parce que voilà, encore une fois, oh, tu parles Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Lui, il est tout en haut, moi, je suis tout en bas.
Oui, c'est exactement ce que tu dis.
Hein? Bon, j'essaye de le mettre...
Ouais, c'est les mots qui...
D'accord. Donc, la question est la suivante. Comment situer Rabbi Shimon? Alors, avant de répondre à cette question, si vous voulez bien, on va d'abord comprendre que s'est-il passé à Lag BaOmer et pourquoi on est joyeux. D'abord, il y a un problème de fond. Depuis quand lorsqu'un tzaddik meurt, on est joyeux. C'est-à-dire, avant même de se poser la question, est-ce que je suis proche de Rabbi Shimon? Est-ce que je suis loin de Rabbi Shimon? Est-ce que je peux essayer de lui ressembler? Oui ou non? Etc, etc, etc. Il y a d'abord une question de fond qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire que des juifs, pendant la Hiloula de l'Agba Omer, ils vont se mettre à danser? D'ailleurs, vous savez que Hiloula, en araméen, ça veut dire quoi? Hiloula. C'est quoi la définition de mot Hiloula? Hiloula, c'est un mot araméen. Mariage. Mariage. Mais il y a un tzaddik qui est mort. Qu'est-ce que tu danses ici? Tu devrais pleurer. Si plus le tzaddik il est grand, plus tu devrais pleurer. Et qu'est-ce que nous on fait? La musique, la tarbouka et vas-y. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Et ça, on le voit chez aucun autre tzaddik. C'est vrai qu'on voit chez d'autres tzaddikim qui vont, il y a la notion de joie. Mais jamais chez les tzaddikim, il y a cette notion de joie, de ferveur, au point qu'on oublie qu'il y a un mort ici. Alors, est-il mort? Bien sûr qu'il est mort. Il est niftar. Alors, pour comprendre la raison de la joie à l'Agba Omer, pas seulement que le deuil s'arrête, parce que vous savez que le deuil s'arrête à l'Agba Omer. Pour tout le monde, Sfaradim, Ashkenazim. Les Ashkenazim vont continuer après l'Agba Omer. Les Sfaradim vont s'arrêter à l'Agba Omer. Mais pour tout le monde, le deuil s'arrête avec l'Agba Omer. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est un jour qui est joyeux? Alors, pour comprendre, pour répondre à ça, on va lire un texte du Zohar. Un texte qui va peut-être vous étonner un petit peu. Voilà, c'est, on parlait de Torazak. Alors, on va lire un texte du Zohar. Le Zohar ne pose pas directement la question pourquoi on est joyeux à l'Agba Omer. Mais vous allez voir que lorsqu'on va lire ce texte, on va comprendre tout de suite pourquoi on est joyeux le jour de l'Agba Omer et bien sûr les jours autour. On va lire un texte du Zohar qui est à la fin du Zohar, qui nous raconte le départ de Rabbi Shimon de ce monde. Vous savez que c'est pas Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar, c'est son élève Rabbi Abba qui a écrit. Et à la fin du troisième tome du Zohar, il y a trois tomes dans le Zohar, à la fin du troisième tome, Rabbi Abba raconte comment s'est passé le départ de Rabbi Shimon. Et regardez le théâtre, comment ça s'est passé. Alors on y va. Kisham tziva Adonai ataberara chaim adaolam. Rabbi Shimon était en train de commenter un psaume dans Tehilim, le psaume 133, référence numéro 1. Le psaume 133, dans lequel il est écrit, car c'est là que Dieu a placé la bénédiction, la vie heureuse pour l'éternité. Amar Rabbi Abba, Rabbi Abba dit, l'osiem aner akadosh, le saint luminaire, en parlant de son maître, Rabbi Shimon, n'a pas eu le temps de dire le mot chaim, parce que dans ce verset, il est écrit, car là-bas, Dieu a ordonné, placé sa bénédiction, la vie heureuse pour l'éternité. Il dit, il n'a pas eu le temps de dire le mot la vie, ach diburo nechlash, que sa parole fut affaiblie. Bon, vous avez vu, il n'a pas dit qu'il est mort. Non. Il dit, et c'est intéressant, sa parole s'est affaiblie avec quel mot? Vie. Donc il est mort avec la vie. Bon, voilà, bon, il n'a même pas dit le mot mort. Il a dit sa parole s'affaiblit. J'ai pas fini. Et il raconte, Bechol Otoyom, pendant toute cette journée, ce fameux 18 IA, l'opasakaesh minabait. Le feu ne quitta pas la maison. C'est-à-dire que la maison, il y avait comme une sorte d'incendie. Mais la maison n'a pas brûlé. D'accord? Alors, la maison n'a pas brûlé. Et en fait, c'était un feu spirituel. Ce qui se passe, écoutez bien, Kol Oto Hayom raconte Rabbi Abba tout ce jour, pendant toute cette journée, du 18 IA, le jour où mon maître, sa voix s'est éteinte, avec le mot vie. Yashavti ba aret vebachiti. J'étais assis par terre et je pleurais. C'est normal, qui n'aurait pas pleuré? Vous n'aurez pas pleuré? Bien sûr qu'on aurait pleuré. Maintenant, le feu a duré toute la journée. Il ouvre Rabbi Shimon, le feu dure toute la journée. Acharech et nipsa kaesh, une fois que le feu s'arrête, raiti et pne kodesh ner kodesh kodashim. J'ai pu enfin voir, observer le visage du luminaire, du saint des saints. Regardez comment il appelle son maître, le saint des saints. Chez Istalek mina olam, qui venait de quitter ce monde, a tout veshochav alimino, enveloppé et couché sur sa droite. Donc là, la droite, c'est la bonté. Ufanav mechuyachot, le visage souriant. Rabbi Abba a pleuré toute la journée. Il rentre, enfin, le feu s'arrête, donc il rentre pour voir son maître, Rabbi Shimon. Il voit Rabbi Shimon du côté droit, c'est-à-dire le côté de la bonté, le visage souriant. C'est pas fini. Achar shiotsiu mitato. On fit sortir son lit. Maintenant, on avait un problème. J'ai raconté ça un peu ce matin. C'est que les villes se battaient pour avoir le mérite d'enterrer Rabbi Shimon dans leur cimetière. Et chacun trouvait une raison. Vous savez, comme comme l'Avdil, comme tout d'un coup, dès qu'il y a une personne qui meurt, il y a toujours des nouveaux proches qui arrivent. Des gens qui disent, ah, mais moi j'étais le proche de. Moi, c'est bon, on a vu ça dans les en France, mais bon, je parle même. Voilà, il y a des proches, des nouveaux enfants qui sortent, les nouveaux oncles. Mais là, ce qui se passe, c'était dans le bon sens. Il y a eu des communautés qui sont sorties qui ont dit, mais attendez, Rabbi Shimon, il a passé chez nous, il a dit qu'il était bien chez nous, il était un an chez nous, il était deux ans chez nous, il était là, etc. Et donc, les communautés se battaient pour avoir le mérite d'enterrer Rabbi Shimon dans leur ville. Ce qui s'est passé, à un moment, le temps qu'ils se discutaient, mais c'est de bonnes guerres, il y a eu le lit de Rabbi Shimon qui a commencé à voler dans les airs. C'est le mot du Zohar, ce que je vous dis, hein. Ayamitato pour Erba Avir. D'accord? Il y a eu, donc il y a eu le lit qui volait dans les airs. Ve'esh ayaboer lefanav. Et le feu brûlait devant lui. Tout seul, hein, bien sûr, c'est pas, il y a personne qui était avec un lampadaire, j'allume, d'accord, rien du tout. Il avançait, le feu avançait devant lui. Et il raconte Rabbi Abba, qui était son élève principal, Shama Nukol, on entendait à ce moment-là une voix, à Omer qui disait, Bou Vekansu, venez et entrez, les Iloula de Rabbi Shimon, à la Iloula de Rabbi Shimon. Et rappelez-vous que le terme Iloula veut dire quoi?
Mariage.
Mariage. Donc vous voyez, c'est Rabbi Shimon qui veut cette notion de joie. Son élève, il a pleuré toute la journée. Dès qu'il rentre, qu'est-ce qu'il voit? Son maître souriant. Maintenant, Rabbi Shimon, il était maître de la cérémonie. C'est lui qui a tout géré. Il a dit, attendez, je gère. Non, il est parti de ce monde, mais il gère. Il dit, attendez, maintenant je suis là, il y a le feu. Maintenant, hop, on y va. Le sourire et une voix qui sort du ciel, qui dit, enfin qui sort du ciel, je ne sais pas d'où elle sort, mais en tout cas, une voix qui dit, venez entrer à la Iloula, au mariage de Rabbi Shimon. Donc là, on voit clairement que Rabbi Shimon voulait clairement que le jour de son départ de ce monde ne soit pas célébré comme une date de deuil ou comme une date d'introspection, comme beaucoup de tzaddikim, une date d'introspection, une date de remise en question, etc. Il a voulu clairement, et comme on verra encore plus clair dans la suite du cours, il a voulu très clairement que cette date soit célébrée comme un jour de Simra. Où est la joie? Pourquoi il est Bessimra? D'abord, s'il me demande de me réjouir, ça veut dire que, si Rabbi Shimon me demande de me réjouir le jour de Saïloula, ça veut dire que, lui aussi, il est Bessimra. Donc, en vérité, ce qu'on doit comprendre, que se passe-t-il chez Rabbi Shimon, là-haut, le jour de la grand-mère? Au point que Rabbi Shimon te dit, celui qui pleure le jour où je suis parti, il n'a rien compris. Vous me suivez? Ça veut dire, on essaie de construire. On veut comprendre pourquoi le jour de Rabbi Shimon, on est Bessimra, on est joyeux. C'est Rabbi Shimon qui l'a demandé. Très clair. Bon, c'est Rabbi Shimon qui l'a demandé. Très bien. Mais si Rabbi Shimon demande de se réjouir, c'est pas Stam, il veut qu'on fasse la fête. C'est que Rabbi Shimon est en train de se réjouir lui-même. Pourquoi il est en train de se réjouir? Alors regardez.
Et surtout qu'il n'y a jamais eu de précédent.
Il n'y a jamais eu de précédent.
C'est ça.
À jamais. Le jour du départ de Moïse, qu'est-ce qu'on fait? C'est un jour où les tzaddikim jeûnent.
C'est ça.
C'est un jour de jeûne, normalement. Jamais on a vu ça. Jusqu'à Rabbi Shimon, jamais on a vu ça, que le jour où un tzaddik parle de ce monde, on fait une fête. Jamais.
On a précisé son âge ou pas?
Non. Mais en tout cas, c'est quand même extraordinaire de célébrer ça. Il n'y a pas d'âge pour un maître.
Ouais, c'est après 70 ans, je sais qu'on...
Non, 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 jamais. On va chanter les Chetraïl, mais bon, on rentre à la maison, tout le monde pleure. Ouais, d'accord?
Non.
Ça n'existe pas. T'as déjà vu, toi, une personne qui dit, bon, allez, on l'a enterré, et vas-y, à l'enterrement, on allume, boum, allez, vas-y, on y va, on danse.
Il paraît qu'après 70 ans, on doit faire Happy Days, hein?
Happy Days, ah oui,
non,
pas mal.
Non.
Non, on dit que...
Non.
Seconde, on dit... on est heureux, etc., mais voilà, on danse pas, ça n'existe pas.
On doit alléger le deuil, c'est pas la peine de...
Voilà, ça veut dire qu'on met pas, on met le frein un peu sur le deuil, mais le deuil est là.
Bien sûr.
Le deuil est là. Donc, j'essaie de me mettre un peu dans la tête des élèves de Rabbi Shimon. Hein? C'est pardon?
Non, on a prolongé maintenant 70, c'est un peu jeune. Non,
alors, je continue. Donc, certainement que si Rabbi Shimon nous demande d'être joyeux, c'est que lui aussi, le jour de Saïloula, il est joyeux. Pourquoi? Que se passe-t-il le jour de l'Agba Omer? Non, Rabbi Shimon, ça fait plus de 2200 ans qu'il est parti de ce monde. Je veux dire, bon, qu'est-ce qu'il a, enfin, un peu moins, mais pourquoi Rabbi Shimon maintenant se serait content en haut cette année? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est aujourd'hui en 5178. Que se passe-t-il cette année pour Rabbi Shimon? C'est la vieille histoire. Tu dis non. Tania juste en dessous. Voilà, justement, on parle de Tania. Vayehi, be'alot Hashem ruchov nishmato elav. Lorsque Dieu fait monter l'esprit et l'âme vers lui. Yehesof, ve'yaale, be'ilouy achar ilouy. Alors, le tzaddik montra d'élévation en élévation, à Drouma Maalot, jusqu'au plus haut niveau, Shavak Chaye Rucho Peulato Asher Avadbel Fanim Be Israël, jusqu'au plus haut niveau, toute son action faite dans sa vie. J'explique ce qu'il veut dire ici. Je veux dire comme ça. On te dit, ne crois pas que lorsqu'un tzadik part de ce monde, avant il était en bas, maintenant il est en haut, maintenant ça se passe en haut, il a déménagé, n'habite plus à l'adresse indiquée. Non, c'est faux. Un tzadik, même lorsqu'il monte en haut, il reste connecté à ce qui se passe en bas. Pas qu'un tzadik d'ailleurs. D'accord? Mais chez un tzadik, c'est plus fort. Et alors, ce qui se passe, c'est que le tzadik continue à s'élever en haut dans les cieux. Et il te dit la chose suivante. Chaque année, dès qu'arrive le jour de mon départ, eh ben moi, je m'élève. Et tous ceux qui veulent bien s'accrocher à moi, je les prends avec. Maintenant, si toi, tu veux être là, tu dis, bon, moi, je suis là, tu veux pleurer, dis que tu pleures. Mais t'es pas avec moi. Moi, en haut, je me réjouis, parce qu'en haut, je passe de niveau. J'étais niveau 100 000, je passe niveau 100 001. Je monte. Et il te dit, comment il monte? Lui, il monte. Il monte pour lui et pour tous ceux qui lui sont attachés. Ça veut dire qu'en vérité, il y a certainement des grands, tout le monde, tous les tzadikim qui montent. Mais il y a des tzadikim qui montent aujourd'hui que personne ne connaît, que personne n'est attaché à eux. Donc eux, ils montent en haut. Mais nous, en bas, on monte pas avec eux parce qu'on n'est pas attaché à eux. Pourquoi on va monter le jour de l'Agba Omer? Pourquoi on monte le jour de l'Iloula dans le tzadik? Parce que comme on est attaché à ce tzadik, alors automatiquement, lorsque le tzadik monte, il fait monter avec lui ceux qui sont attachés. Et c'est pour ça que, quand on a des iloulades, d'accord, comme le 3 Tammuz et comme beaucoup d'iloulades que tout le monde a, on te dit que, dès que nous, on célèbre la iloulade du tzadik, c'est pas pour le tzadik, tu crois que le tzadik a besoin de nous? On dit, on va, l'élévation de l'âme. C'est toi qui vas élever l'âme du tzadik. Sérieusement. Tu crois vraiment que c'est toi qui vas élever l'âme du tzadik?
C'est la communauté.
Non mais, tu crois vraiment que c'est moi qui va élever l'âme du tzadik? C'est pas moi qui va élever son âme. Son âme est en train de se lever déjà dans les cieux. Seulement, il te dit, si tu veux bien célébrer le jour de Maïloula avec moi,
tu vas être dans le ciel.
Je t'emporte avec moi. Maintenant, Rabbi Shimon te dit, moi, Maïloula, on la fait pas dans les jeûnes. Moi, Maïloula, on la fait dans la Simra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un lien extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Qui était Rabbi Shimon? Regardez un texte du Zohar juste en dessous. Toujours vers la fin du Zohar, dans le tome 3. Pata Rabbi Shimon Damar. Rabbi Shimon commença en disant. Rabbi Shimon a commenté un verset de Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Ani le dodi ve'alai teshukato. Je suis à mon bien-aimé, et lui, il était pris de moi. Et regardez ce que dit Rabbi Shimon, le jour de son départ de ce monde. Kol ayamim shaiti mekushar ba'olam hazeh. Tous les jours pendant lesquels j'étais attaché à ce monde, ça veut dire j'étais dans un corps, Haïti nikshar bekesher echad mekadosh baruch hu. J'étais attaché d'un seul lien avec Dieu, même dans un corps. Ve'lachen, et c'est pour cela, karet, à présent, ve'alai teshukato, il était pris de moi. En d'autres termes, il est en train de dire, je suis amoureux de Dieu, je suis collé de Dieu, et c'est pas maintenant, depuis toute ma vie j'étais comme ça. Et imaginez que ce Rabbi Shimon, il est en haut, et il monte, 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 et il monte. Donc on peut comprendre pourquoi Rabbi Shimon te dit, chez moi c'est un jour joyeux. C'est pas un jour où je pleure. Le jour de Maïloula, c'est pas un jour où je pleure, c'est un jour où je passe de niveau. Quand t'as une augmentation, tu rigoles pas, ça c'est l'augmentation de Rabbi Shimon, mais une augmentation.
Oui, mais il y a que Rabbi Shimon.
Pas une augmentation de salaire.
Ce qui est quand même surprenant,
c'est. Tous les tzadikim.
Mais non, mais j'ai compris, mais il y a que Rabbi Shimon qui a compris cette notion-là.
Ah bah oui, apparemment. Rabbi Shimon, il a innové ce concept. Rabbi Shimon, il te dit, le jour de Maïloula, j'ai une augmentation. Alors, tu crois que je vais pleurer? T'as déjà vu une personne qui pleure quand il y a une augmentation? J'ai une augmentation de poste dans le ciel. On me dit encore plus haut, encore plus haut. Donc c'est un jour joyeux. Ok. Bon, très bien. Le problème est la chose suivante. Le problème est que tout ce qu'on vient de dire est très beau. Mais vous remarquez que plus on avance et plus on comprend que Rabbi Shimon est à des années-lumière de notre niveau. On est d'accord? Et là, j'amplifie la question de David. Peut-être qu'il va vouloir la répéter dans ses mots. Bon, on va garder ça comme ça pour le moment. Alors, non, mais sérieusement. Vous voyez, on a lu le texte, vous avez vu. On parle pas d'un monsieur Griade ici. Excusez-moi de parler comme ça. Je m'excuse de, voilà. On parle d'un tzadik qui est hors norme. Mais complètement hors norme. On parle d'un tzadik que même une fois qu'il est parti de ce monde, il continue à gérer son enterrement. Il était là, la lumière, le feu, la simcha. Il continue de s'élever. Même lorsqu'il était dans ce monde, il était attaché à Hachem. À plus forte raison, quand il est en haut, il monte. Et moi, je suis où dans tout ça? Donc, en d'autres termes, la question qu'on devrait se poser maintenant, c'est de quel droit je suis là à m'approprier la Yulah de Rabbi Shimon? Qu'est-ce que j'ai à faire avec Rabbi Shimon? Quel rapport j'ai avec Rabbi Shimon? Il est tellement grand et je suis tellement petit, petit, petit. Quel rapport j'ai avec Rabbi Shimon? C'est une vraie question. Je vais. Oui, non, je comprends. Mais la question que je posais est la suivante. Il faut que la personnalité de Rabbi Shimon me parle à moi dans ma réalité. Vous me suivez? Ça veut dire que Rabbi Shimon est un grand homme, c'est super. C'est un grand tzaddik. C'est quoi? C'est un très grand tzaddik. Mais plus tu dis que c'est un très très grand tzaddik, et plus tu comprends que jamais tu arriveras à son niveau. Jamais tu l'arriveras à la cheville. Alors comment ça se fait que, pourtant, on sent une certaine proximité avec Rabbi Shimon? On le voit ça. Chez même des gens très simples, tout le monde sent une proximité avec Rabbi Shimon. D'où on sent cette proximité? Normalement, on devrait sentir une grande distance de Rabbi Shimon. Vous savez, comme quand tu vas devant un grand docteur ou un grand joueur, chacun y trouvera ses références. D'accord? Devant quelqu'un que tu considères très très grand. Tu te sens tout petit devant lui. T'es là, tu te fais petit. Tu dis pas c'est mon copain, tu sens pas de proximité du tout.
Parce qu'on a grandi avec Rabbi Shimon, c'est pour ça.
Ah, mais non, mais d'accord, mais comment ça a commencé? Non, c'est plus que ça, attendez, attendez. Rabbi Shimon, c'est pas un distributeur de brachot. Non, mais attendez. Excuse-moi, David. Rabbi Shimon, c'est pas un distributeur de brachot. C'est pas ça. Non? Pas du tout. Rabbi Shimon, exactement. Rabbi Shimon, c'est pas un distributeur de brachot, c'est pas un distributeur de grillades. D'accord? Voilà, qu'on soit bien clair. D'accord? Rabbi Shimon, il y a une profondeur dans son message. Comment comprendre? Comment ça fonctionne? Ok? Je vais amplifier la question pour vous montrer, à Botaï, qu'en fait, Rabbi Shimon, nous qui croyons savoir un peu qui il est, on n'a même pas idée qui il est. Donc là, si vous voulez, la première partie de ce cours, la phase 1, avant de tourner la page, je vais vous montrer qu'on ne comprend rien à Rabbi Shimon. Et après, quand on tournera la page, on va essayer de comprendre pourquoi, quand même, on essaye et on sent une certaine proximité avec Rabbi Shimon. Donc déjà, quand on lit le Zohar, on comprend que Rabbi Shimon, il est très loin. J'ai pas fini. On va prendre la référence numéro 2. Une histoire que la Gemara raconte dans le Talmud de Jérusalem. Rabbi Akiva, Oshiv et Rabbi Shmir et Rabbi Shimon. Vous savez, à l'époque, on avait l'habitude que le Rosh Yeshiva plaçait les élèves. Il plaçait les élèves, il mettait chacun à sa place. D'accord? Le Rosh Yeshiva était le placier. Ok. Maintenant, arrivé un moment, les deux élèves principaux de Rabbi Akiva étaient Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Un sandwich, voilà. Et Rabbi Akiva, il devait les placer. Qui va-t-il placer en premier? Alors, Amar, il a dit, Rabbi Akiva, leur maître, a dit, Yeshev Rabbi Meir Trila. Il a dit que Rabbi Meir s'asseye en premier. Nidkarkemu pene Rabbi Shimon. Le visage de Rabbi Shimon se crispa. C'est pas de l'orgueil, Rosh Hashanah. C'est que bon, son visage est crispé. Ça veut dire que Rabbi Meir a été placé en premier avant Rabbi Shimon. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit, Dayecha. Ça te suffit, toi, Rabbi Shimon, She'ani uvoraacha, que moi et ton créateur, Makirim Korara, connaissons ta force. Vous me suivez? Non. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il est en train de lui dire, son maître Rabbi Akiva, il lui dit, moi et Dieu, on te connaît. À part moi et Dieu, ou Dieu et moi, d'accord? Personne ne te connaît. Donc ça sert à rien que je te place en premier parce que personne ne sait qui tu es.
Rabbi Akiva, il était plus fort que, il était plus élevé que.
Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Meir et de Bar Yochai. Et donc Rabbi Akiva place les deux, c'est leur maître, et il place Rabbi Meir en premier. Donc Rabbi Shimon, il dit pourquoi est-ce que peut-être mon maître est fâché avec moi, il sait pas. Et là son maître il lui dit, toi, ça te suffit que Hachem et moi on te connaît. En d'autres termes, personne t'a compris. Mais attendez, qui avait de l'autre côté, Rabbi Meir? Qui était Rabbi Meir?
C'est pas
rigolo. D'accord? Rabbi Meir, regardez juste en dessous de la Gemara. Galoui veyadoua lifte mishamar vaya aolam. Il est clair et connu devant Dieu. She'en bedoro chez Rabbi Meir kemoto, que dans la génération de Rabbi Meir, personne n'a atteint son niveau. Ou ifne mal au kavu alacha kemoto. Dans ce cas, pourquoi la halacha n'a pas été fixée comme lui? Chez lo yachlu chaverav la mode asavdato, parce que ses amis n'arrivaient pas à comprendre le fond de sa pensée. Là-bas, la Gemara donne des exemples. Ça veut dire que déjà Rabbi Meir, ses amis n'arrivaient pas à comprendre le fond de sa pensée.
Comment on sait qu'il est grand?
Attendez. Maintenant, même ce Rabbi Meir, qu'on te dit que ses amis n'arrivaient pas à comprendre le fond de sa pensée, devant Rabbi Shimon, c'est pas rien, mais bon. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'on a les autres. On a Rabbi Meir, qui est déjà une ligue au-dessus. Et on a Rabbi Shimon qui est encore au-dessus, au point que Rabbi Akiva dit à Rabbi Shimon, il lui dit, toi, Rabbi Shimon, ça te suffit que Hachem et moi, on sait qui tu es. Les autres, ils n'ont rien compris qui tu es. Donc de là, on voit quoi? De là, on voit à quel point, de là, on voit à quel point Rabbi Shimon est quelqu'un de très, 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 très grand. Je vais sauter la référence numéro 3, si on a le temps, on reviendra après, parce que c'est un autre dossier. Je vais passer maintenant à la référence numéro 4. Vous voyez, donc d'un côté, si on s'arrête ici à la référence numéro 2, on voit que Rabbi Shimon est une personnalité qui n'a strictement rien à voir avec nous, qui est à des années-lumière de nous. On ne peut pas sentir une proximité avec un tzaddik comme ça. C'est un tzaddik énorme, que même Rabbi Meir ne le comprend pas. Même Rabbi Meir ne comprend pas Rabbi Shimon. Il n'y a que Rabbi Akiva, son maître, et Dieu qui arrive à le comprendre. Donc Rabbi Shimon, qui tu es toi pour même prononcer son nom? Rabbi Shimon, c'est une autre dimension. Deux secondes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire se sentir attaché à lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Shimon a tenu à ce que sa joie soit accessible à tous et que chacun participe à sa joie. Où on voit ça? Regardez cette histoire qui va peut-être vous choquer. Dans la référence numéro 4, c'est de Priet Tzraïm. Priet Tzraïm, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, retranscripteur principal des écrits des enseignements du Arizal. Alors, Ehidli à Rav Avraham Alevi. Il raconte la chose suivante, référence numéro 4. Rabbi Avraham Alevi, qui est aussi un des plus grands kabbalistes, d'accord? Rabbi Avraham Alevi me témoigna. Ki hu ayan noeg lomar nachem birkat tishkon. Il avait l'habitude de réciter le nachem dans sa prière. Vous savez c'est quoi le nachem? Nachem, c'est la bénédiction dans laquelle on demande à Dieu, c'est la bénédiction qu'on fait à Tisha B'Av. Dans laquelle on demande à Dieu de reconstruire Jérusalem. Et il y avait un tzaddik, qui s'appelait Rabbi Avraham Alevi. Et tellement il avait de la peine que le Beit HaMikdash n'était pas là, que tous les jours dans sa prière, apparemment même Shabbat et Yom Tov, d'accord, il intercalait le Nachem. Ou il intercalait, ou en tout cas il le mettait quelque part, Nachem. Il demandait à Dieu d'amener la consolation. Bon. Maintenant, une fois, Rabbi Avraham Alevi, il était, donc ça c'est l'histoire qui est racontée, Rabbi Avraham Alevi, comme ça racontait là-bas longuement, était au Kever de Rabbi Shimon. Il était au Kever de Rabbi Shimon le jour de l'Agba Omer. Et il a fait Mincha au Kever de Rabbi Shimon. Et lorsqu'il a fait Mincha, il a récité Nachem. Alors regardez. Ou Kshime Sayem, dès qu'il a terminé, Achar Atfila, Amar Mori Arizal Shavarishon Barakai Kavursham, dès qu'il a terminé cette fila, le Arizal a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était enterré là-bas, Shamarli, qui m'a dit, donc il a dit à Rabbi Avraham Alevi, et mort la Ishazé, dit à cet homme-là, Lama Omer Nachem Biyom Simprati. Pourquoi récite-t-il Nachem le jour de ma joie? En d'autres termes, pourquoi il vient amener l'angoisse du Beit HaMikdash le jour de ma joie? Lachem, c'est pour cela, où il est Benechama Bisman Karov, il devra être consolé très très bientôt. Et là-bas, le Rabbi Chaim Vital raconte que Rabbi Avraham Alevi, le mois suivant, dans le mois, il a perdu son fils aîné. Et donc, du coup, on venait le consoler. Bon, je rentre pas dans les calculs pourquoi, etc. Parce que voilà, évidemment, on comprend pas. C'est des calculs de Tzadikim. Mais déjà, ce qu'on voit dans cette histoire, que Rabbi Shimon Bar Yochai ne supporte pas, ça c'est qu'elle veut dire. Ça veut dire, il te dit, tu veux faire ton angoisse, va dehors, va à Tibériade, va au lac de Tibériade, fais ce que tu veux là-bas, mais chez moi, tu me laisses tranquille. Ça me dérange pas, tu veux danser, tu danses, tu veux mettre de la musique, tu veux mettre des grillettes, fais ce que tu veux, mais chez moi, pas d'angoisse. Et pourtant, Rabbi Avraham Alevi, il était en deuil, pourquoi? Il est pas en deuil parce qu'il a perdu une affaire. Il était en deuil pour le Beit HaMikdash. Et là-bas, c'est intéressant parce que là-bas, Rabbi Chaim Vital, il développe. Il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est à un niveau dans lequel, pour lui, le Beit HaMikdash n'a pas été détruit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est à un niveau dans lequel, pour lui, la dimension principale du Beit HaMikdash n'est pas matérielle. Pour lui, la dimension principale du Beit HaMikdash est spirituelle et cette dimension est indestructible. Donc tu parles à Rabbi Shimon, tu lui dis, il faut reconstruire le Beit HaMikdash. Il te dit, mais de quoi tu parles? Il est déjà là. Exactement. Donc tu vas voir Rabbi Shimon, tu lui dis, tu pleures pour le Beit HaMikdash, il sait pas de quoi tu parles.
Il sait de...
D'accord? Alors, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit juste en dessous de l'écouté Sichot. Mousbar Beshem Admour Azaken, c'est expliqué au nom de l'Admour Azaken, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, Ayam et Aneshamot faisaient partie des âmes, chez les Gabéem, Lohaya Inan Achorban. que pour ces âmes, la notion de destruction du temple n'existe pas. Il n'y a pas eu lieu. Bon, il y a du bois et des pierres qui ont brûlé. Ça s'arrête là. C'est tout. À part ça, le Beth Amikdash est là. Bon. Alors, la reine, c'est pour cela où il y a pardon, Memeila, El Makom, Lehergesh, Achoban, Bien Sirato, Vegilou, Shelo. Le jour où Rabbi Shimon se dévoile, il n'y a pas lieu d'être triste. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette référence numéro 4? Ben, on retient que Rabbi Shimon tenait deux choses. D'abord, on retient que Rabbi Shimon tenait à ce que son jour soit un jour de joie pour tout le monde. Parce que, vous comprenez, même Rabbi Avraham Alevi n'était pas au niveau de Rabbi Shimon. Donc, on peut dire, écoute, je suis pas à ton niveau, toi, tu sens que le bétail n'a pas été détruit. Moi, pour moi, le bétail, j'ai été détruit, je pleure, c'est tout. De là, on voit que Rabbi Shimon tenait à ce que sa joie soit une joie qui soit pour tout le monde. Et en particulier, le jour de Lag BaOmer. Rabbi Shimon, il est joyeux toute l'année. Vous savez, Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi précédent de Lubavitch, il était en Israël. Il a écrit ses mémoires. Et il était en Israël, et il a raconté, il était dans beaucoup de tombes de tzadikim, et il a raconté que dans chaque kever, il sentait une sorte d'inspiration. Une inspiration qui a été reliée au style du tzadik. Il raconte par exemple, il y a plein d'exemples, mais je vous donne deux exemples. Il dit par exemple que lorsqu'il était à la tombe de Maïmonide, qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti comme un élan d'intelligence très profonde, de Chorma. Il raconte, il dit, parce que dans le nord d'Israël, il y a une concentration extraordinaire de tzadikim, et il raconte, il dit, lorsque je suis rentré dans le kever de Rabbi Shimon, à Meron, il était à Meron, c'est pas le jour de la Gomer, il a dit, j'ai senti une joie qui m'a empli, j'ai pas compris comment. Vous savez, des fois, t'es comme ça, tout d'un coup, pac, comme une joie qui te happe, qui te prend, qui te lâche pas. Il raconte, il dit, c'est ce qu'il a senti. Encore plus le jour de la Gomer. Donc, de là, on voit quoi? Retenons. De là, on voit la chose suivante, que d'un côté, Rabbi Shimon est un personnage qui nous dépasse complètement, mais complètement, il est très 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 loin, il monte, etc. Que même en vérité, bon, on dit qu'il est mort, mais en vérité, il décolle, il monte, il avance, en vérité, il était toujours là spirituel. Et que même ses amis ne l'ont pas compris, ils ne savent pas qui il est, personne ne sait qui il est, Rabbi Shimon. Même Rabbi Meir n'a pas compris qui c'est Rabbi Shimon, il n'y a que Rabbi Akiva, son maître, et Dieu qui sait qui il est. Quand il était élève, il n'y avait que son maître qui le comprenait. Et d'un autre côté, on voit que Rabbi Shimon veut que tout le monde participe à sa joie. Rabbi Shimon, au point qu'il n'accepte pas qu'on ne participe pas à sa joie, que celui qui est à faire de l'angoisse le jour de sa Iloula, ben ça passe pas. Bon, voilà, d'accord. Et on voit comment, rappelez-vous, le Zohar qui a dit la voix qui sort du ciel, qui dit, venez, entrez, donc Rabbi Shimon nous invite à participer au mariage de Rabbi Shimon. Iloula, mariage de Rabbi Shimon. Donc comment comprendre ce paradoxe? D'un côté, Rabbi Shimon, un personnage très 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 élevé, mais des années-lumière de nous, et d'un autre côté, un personnage duquel on se sent très proche. Peut-être le plus proche parmi tous les tzadikim. On se sent proche. Rabbi Shimon, tout le monde, Rabbi Shimon. Makara, qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un m'a raconté ce matin une anecdote. Une fois, il y a un juif. Bon, Dieu préserve. Il y avait des affaires, c'était compliqué, etc. Et on lui a dit, écoute, si tu veux qu'on te sauve de cette affaire, il faut te convertir. Il faut te convertir à l'islam ou je sais pas quoi. Bon. Alors, Dieu préserve, il s'est converti, c'est une blague, hein. Il s'est converti, etc. Et ses amis lui disent, ouais, mais en fait, t'es pas converti, etc. Bon. Il lui dit, non, je suis converti, ça y est, c'est bon, j'ai fini, j'ai arrêté, etc. Une fois, il y a une grosse galère qui arrive, il a eu un accident. Yo, Rabbi Shimon! Et c'est Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon est proche de nous. Alors, comment comprendre? Il est proche ou il est pas proche? On va tourner la page. Ce que je vais vous montrer, c'est que ce paradoxe de Rabbi Shimon, on va le retrouver pas seulement dans son personnage, mais on va le retrouver aussi dans les enseignements de Rabbi Shimon. D'un côté, on voit dans les enseignements de Rabbi Shimon, dans ce qu'il attend de nous, que Rabbi Shimon attend de nous des choses extraordinaires que, a priori, on ne peut pas atteindre. Et d'un autre côté, on voit à quel point Rabbi Shimon est très proche de nous. Mais je vais laisser le texte parler. On va prendre la référence numérique. Donc, encore une fois, hein, le fil conducteur du cours, c'est paradoxe. D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois, d'un côté, Rabbi Shimon, il ne parle pas de nous. On reprend la question de David. D'accord? Et d'un autre côté, Rabbi Shimon parle de nous et s'occupe de nous. Alors, je vais vous montrer maintenant un exemple halakhique pour vous montrer que Rabbi Shimon n'est pas dans notre ligue. Il y a un verset dans Yehoshua, Josué, référence numéro 5, qui dit « Lo yamush sefer atorazem mipira. Ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche. » La Torah ne doit pas quitter ta bouche. Okay. Ah, d'accord ?« Vehagitabo yomam valayla, tu le méditeras jour et nuit. » Donc ça veut dire qu'on doit étudier la Torah 24/7. Mm-hmm. D'accord ? 24/24, 7/7. Bon. Alors, et quand on va travailler? Jamais. On est d'accord, c'est écrit. Il ne quittera pas ta bouche Il n'a pas dit d'étudier un peu par jour, un peu tous les matins, un peu. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est ce qu'a dit Yeshua. Il a dit, ce livre ne quittera pas ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Quand je mange, quand je dors, quand je travaille. Mm-hmm. Gemara Brachot, page 35. Pardon? Ah oui, bien sûr. Alors, Gemara Brachot, page 35. Yachol, Dvarim, Kirtavam, dit la Gemara. J'aurais pu penser que ce verset doit être compris littéralement, que la Torah ne quittera pas ma bouche, et que je vais l'étudier jour et nuit. Mais il est évident que ce verset ne peut pas être compris littéralement. Talmud Lomar, Vasavta de Ganecha, parce que dans la paracha Ekev, il est écrit, et tu ramasseras ton blé. Or, pour ramasser le blé, il faut aller le chercher. Hanheg ba'em minhag derecheretz. Donc, tu dois adopter le comportement de ce monde, tu dois travailler. Tivrei Rabbi Ishmael, telle est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit, Efshar, Adam choresh beshat harisha. Si l'homme laboure lorsqu'il faut labourer, Vezora beshat zria, il sème lorsqu'il faut s'aimer. Vekotser beshat ktira, et qui récolte lorsqu'il faut récolter. En d'autres termes, il y a trois saisons qui sont occupées.
Trois étapes.
D'accord? Torah maté aléa, que deviendra la Torah? L'année est déjà passée. On est d'accord? Il dit, tu prends le temps qu'il faut pour labourer. Allez, vas-y, hop. Amène les outils, hop, va dans le champ, reviens du champ, on recommence demain et après demain. Après il faut semer et reviens et reviens et reviens. Après il faut après etc. Après il faut récolter, après il faut vendre, après etc. Quand va étudier? Et là seulement dit Rabbi Shimon, Bizman chez Israël aussi Retsuno Shel Makom. Lorsque le peuple juif accomplit la volonté de Dieu, Melartan Aset Alide Acherim, leur travail sera effectué par d'autres. Eux ils resteront toute la journée à étudier la Torah. Et leur travail sera effectué par d'autres. C'est l'autre Rabbi Shimon qui dit ça. Amar Abaye. Et Abaye a tout un développement dans la Gemara, mais je vous donne la conclusion. Amar Abaye, Abaye a dit, Arbe Asouk Rabbi Ishmael, beaucoup firent comme Rabbi Ishmael, ça veut dire que je dis bon, on va essayer d'allier Torah avec Derech Eretz, la Torah et le travail, en essayant d'étudier un peu le matin, un peu le soir, voilà. Ve'alta Beyadam, ils ont réussi. Qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, velo alta beyadam, et n'ont pas réussi. Pourtant, Rabbi Shimon l'a dit. Il y a beaucoup qui ont essayé, qui sont restés chez eux, qui sont restés à la yeshiva, et qui ont dit, je bouge pas de la yeshiva! Eh ben, ils ont pas bougé, ils ont pas mangé. Donc, vous voyez que Rabbi Shimon, il a une approche qui n'est pas du tout populaire. Qui est même pas populaire, qui est pas du tout de notre niveau. Bah, qui est à ce niveau-là? Rabbi Shimon te dit, tu restes à la yeshiva. Tu vas pas travailler. Tu ne vas pas travailler. T'étudies la Torah. Qui va te donner à manger? Dieu, il va te donner à manger. Non, mais je comprends. Mais c'est-à-dire, là, quand tu lis quelque chose comme ça, Rabbi Shimon te dit pas, regarde ce que je fais. Il te dit, voilà ce qu'il faut faire. Alors, je disais, mais attends. T'attends vraiment, Rabbi Shimon, que je travaille pas? Ça y est, on fait la boutique. C'est ça qu'attend Rabbi Shimon? Oui. Rabbi Shimon te dit, si tu veux accomplir à la lettre ce qui est écrit dans Josué, c'est ce que tu fais. Maintenant, pourtant, la Gemara te dit qu'il y a beaucoup qui avaient une bonne volonté, ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon. Ça n'a pas marché. Ils ont dû se revenir à la réalité et reprendre le travail.
Qu'est-ce qui leur a manqué?
Donc, non, je comprends. Mais ça veut dire que, bien sûr, ils n'étaient pas au niveau. Ce que Rabbi Shimon dit, c'est pas du baratin. Attention. Si Rabbi Shimon dit, c'est que ça marche. Seulement, pour que ça marche, il faut être au niveau de Rabbi Shimon. Oui, il faut avoir une émouna, un bitachon du niveau de Rabbi Shimon. Oui. Et là, ça marche. Rabbi Shimon, il peut être 13 ans dans une grotte et manger, boire, dormir. Pas de problème. Il n'est pas mangé, on t'envoie un caroubier. Pas de problème.
Lui, il est capable de se contenter d'un caroubier.
Non, c'est pas la question. Il voulait un caroubier. Il aurait voulu une Kaila, il aurait eu. Pas de problème. Il n'a pas besoin d'un Kaila.
S'il voulait de la main tous les jours, il aurait eu.
Il aurait eu. D'accord? Donc, ce que je vais vous montrer par ici, c'est que vous voyez bien, là, on voit le premier aspect du paradoxe concret, halakhique, que Rabbi Shimon attend de nous quelque chose qui n'est pas de notre niveau. Donc, Rabbi Shimon ne parle pas de nous. Il parle pas de nous, là. On peut pas se sentir connecté, relié, d'accord, au message de Rabbi Shimon. Il parle pas de moi, ici. Maintenant, d'un autre côté, lisons la référence numéro 6. Et là, vous allez voir comment le même Rabbi Shimon, qui d'un côté, parler d'étudier la Torah non-stop, 24/7. Ce même Rabbi Shimon, regardez à quel point il est proche du peuple. Alors, on va voir. Très bonne question. Rabbi Shimon, nous venons, Yashvu, Yudbet Shana, Bamahara. Rabbi Shimon et son fils étaient assis, donc enfin, ils restèrent 12 ans dans la grotte. D'accord ? Yetsu vera'u anashim chorchim vezorim. Au bout de 12 ans, ils entendent une voix. C'est le prophète Élie. Qui dit la chose suivante, prophète Élie qui dit, l'empereur est mort, donc le décret est annulé. Parce qu'il y avait une règle à l'époque, que dès que l'empereur était mort, tous les gens qui étaient recherchés, ils n'étaient plus recherchés. C'est comme ça, c'est la règle. Donc, le prophète Élie, il n'est pas là par hasard. Il est venu leur donner une information. Il leur dit, c'est bon, vous pouvez sortir. Personne ne savait où ils étaient. Enfin, certains maîtres savaient, mais la propre femme de Rabbi Shimon, la mère de Rabbi Elazar, ne savait pas où ils étaient. Et donc, Élie HaNavi vient leur dire, c'est bon, on peut sortir. Voilà. Et en tout cas, l'empereur est mort. La voie est libre. Yetsu veraou anashim chorchim vezorim. Référence numéro 6. Et donc, en sortant, ils virent des gens labourer et semer. Il faut se mettre dans leur réalité. C'est-à-dire qu'ils ont passé 12 ans à étudier la Torah non-stop. Et ils sortent, ils voient des gens qui labourent, qui sèment, etc.
Dans la vie courante.
Alors, Amar, il a dit, Rabbi Shimon, menichim chaye olam voskim chayesha, laisse-t-il la vie éternelle pour s'occuper de la vie éphémère? Laisse-t-il la vie éternelle, la vie de la Torah, de l'étude non-stop de la Torah, pour s'occuper de la vie éphémère? Kol makom shenatnim enem yad nisraf. Chaque endroit où leurs yeux se posaient, où les yeux de Rabbi Shimon et son fils se posaient, miyad nisraf se brûlait. Parce que vous comprenez, quand un tzaddik regarde, quand un tzaddik fixe un endroit, c'est pas bon. Il fixe négativement. D'accord? Avec une incompréhension. C'est-à-dire, Rabbi Shimon ne comprenait pas. Il dit, mais quoi? Pourquoi ils labourent? Pourquoi ils sèment? Qu'est-ce qu'ils font?
Qu'ils travaillent.
Alors, il y a Tzabat Kol Bamralem. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui leur a dit, la Chariv ou la Mietzatem? Êtes-vous sortis de la grotte pour détruire mon monde? Chizrou lima aratrem. Retournez donc dans votre grotte. Là, c'est pas l'empereur qui les envoie, c'est Dieu qui les renvoie. Yashvou Yuzbet Rodashim. Ils sont restés 12 mois. Ils attendent que Dieu leur donne le signal. Le même Dieu qui les a fait entrer, qui les a sortis.
C'est un sas de décompression, là.
Alors, Yatsavat Kol Bamra, au bout de 12 mois. C'est intéressant, on trouve le chiffre 12, hein, au passage, hein.
Oui, 12 ans, 12 mois.
Mais bon, ça fait 13 ans en tout. Donc, ils sont restés 12 mois. Yatsavat Kol Bamra. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, Tsehu Mimaratrem. Sortez de vos grottes. De votre grotte. Yatsou. Ils sont sortis. Et là, on raconte que Rabbi Shimon a réussi à... Il a réussi à changer. Il a réussi. Mais Rabbi Elazar n'est pas encore libre. Rabbi Elazar, toujours, quand il voyait, et Gemara raconte comme ça. Elle dit, Kol pam shaya Rabbi Elazar maqué. Partout où Rabbi Elazar frappait, parce que Rabbi Elazar, voyait, il dit, un homme qui laboure. Si tu vois cet homme, tu commences à faire malaise. Rabbi Shimon, il regardait, et l'homme, il reprenait ses esprits. Et partout, c'est comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas, la Gemara a dit, partout où Rabbi Elazar frappait, Rabbi Shimon guérissait. À Marlo, Rabbi Shimon a dit à son fils, béni, mon fils, pour calmer son fils. Dail olam aniv ata. Il a dit, mon fils, moi et toi suffisons pour le monde. Ça veut dire, n'attends pas des autres qui soient à notre niveau. Nous deux, on a ce niveau-là, le monde tient comme ça. Et Bémet, c'est écrit que de tout le monde de Rabbi Shimon, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel dans le ciel. Parce que vous savez quoi, c'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est un phénomène qui exprime que Hachem n'est pas content de nous, que normalement il aurait dû envoyer le déluge, mais qu'il ne le fait pas parce qu'il a promis de ne pas faire. Et du vivant de Rabbi Shimon, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Le mérite de Rabbi Shimon est tellement fort, comme on verra plus tard, dans la référence numéro 8, le mérite de Rabbi Shimon était tellement fort qu'il couvrait le monde entier. Et donc Rabbi Shimon a compris quelque chose. Et là, Rabbi Shimon a dit la chose suivante. Regardez ce même Rabbi Shimon. C'est pas qu'il a changé. Il est resté le même. Lui, il a continué à étudier la Torah tout le temps. Le même Rabbi Shimon qui a dit dans la Gemara Brachot, page 35, référence numéro 5, qui a dit non, Torah, 24 heures sur 24, 6 heures sur 7, je comprends pas comment c'est possible autrement. Ce même Rabbi Shimon, vous savez ce qu'il a dit? Juste en dessous, Gemara Mnachot, référence numéro 6, Amar Rajbi. Rajbi, c'est l'essai de Rabbi Shimon Bar Yochai, a dit, Afilu Lokara Adam et la Kriat Shema Shacharit vers 8, même si un homme lit uniquement le schéma du matin et celui du soir, je veux dire, bon, c'est la base, quoi. Maintenant, le schéma, tu lis parce qu'il faut le lire. Mais le schéma, c'est un texte de la Torah. Donc, il te dit, le même Rabbi Shimon, le tout à l'heure, hein, il te dit, même si tu lis que le schéma du matin et le schéma du soir, qui aime le Yamush, il a accompli l'injonction que ce livre ne quittera pas ta bouche.
C'est bien. Pour ça. Mais ça fait le truc.
Il y a un bug, là.
Ah ouais, il a bien réduit, hein.
Là, on a un chcave. On parlait de 24 sur 24, 7. Et là, tu l'écoutes. On peut 15 secondes. 15 secondes le matin, 15 secondes le soir. Et hop, on est parti. Qu'est-ce qui se passe?
Hein? C'est pas au même personnage.
Oui, mais je comprends.
Au même public.
Mais il a sauvé le monde. Rabbi Shimon est en train de... À qui il parle? Comment il parle? Là, vous voyez, c'est pas que Rabbi Shimon a changé de niveau. C'est pas que Rabbi Shimon a changé d'avis. Qu'avant, il pensait que et maintenant, il pense que. Non.
Il s'est mis au niveau.
C'est qu'en fait, Rabbi Shimon, là, on voit son paradoxe. D'un côté, lui, pour lui, à son niveau, en ce qui le concerne, il est très très haut. Et lui, tu dis, moi, si tu demandes à moi ce que je pense vraiment, moi, je te dis que si tu étudies la Torah 24 sur 24 sur 7, la parole, ça viendra toute seule. Mais, d'un autre côté, Rabbi Shimon est capable de descendre.
C'est ça, c'est niveau.
Aussi haut qu'il est et aussi haut qu'il reste.
Plus bas.
Il est capable de descendre au niveau le plus bas possible. Au niveau d'une personne qui n'est même pas capable d'étudier 5 minutes de Torah par jour. Tu dis, ah bon, qu'est-ce qu'on t'a demandé déjà? Une personne te dit, bah, écoute, j'ai pas le temps pour étudier la Torah, je peux pas. Rabbi Shimon lui dit, écoute, fais ton schéma du matin, fais ton schéma du soir. Tu peux faire ça? Pas compliqué ça. Même les gosses, ils font ça. Schéma Israël, Borchek Morotol Alved. Deux versets! 5 secondes, combien de temps ça prend?
Arrête de verser pas le chemin.
Oui, c'est ça. Schéma Israël, Baruch Shem Gantel Ambed. Ça, c'est dans la Gemara, là-bas, on dit que ça, déjà, c'est déjà le schéma. Bien sûr. Évidemment, mais ça veut dire, là, on voit clairement le paradoxe. Et pourtant, encore une fois, n'oubliez pas ce que nous a dit le Zohar au début du cours. N'oubliez pas le Zohar qu'on a lu au début du cours. Le Zohar qui nous a dit que Rabbi Shimon a dit, je suis épris de Dieu, Dieu est épris de moi, je suis lié à Dieu, je suis amoureux de Dieu, je l'ai jamais lâché, je l'ai jamais quitté. C'est-à-dire que Rabbi Shimon n'a pas changé. C'est pas que Rabbi Shimon a dit, bon, écoute, faut revenir à la réalité, soyons populistes. On va dire au peuple ce que le peuple veut entendre. Pas du tout. C'est pas ça, Rabbi Shimon. La force de Rabbi Shimon, c'est qu'il reste haut. Et il continue à s'élever, c'est pour ça qu'il est joyeux, parce qu'il n'arrête pas de s'élever. Mais d'un autre côté, paradoxalement, il est capable de descendre au niveau d'une personne que pour lui, il n'est même pas capable d'étudier la Torah, que pour lui, ben voilà, il va lire un verset le matin, un verset le soir, et avec ça, il est quitte. Je vais aller plus loin que ça. La force de Rabbi Shimon, c'est pas seulement qu'il est capable de descendre au niveau des ignorants, parce que ça, c'est, voilà, on dit le mot des ignorants. Rabbi Shimon est capable de descendre même au niveau des gens qui se sont laissés aller. Pas ignorants. Ignorants, c'est ignorant, qu'est-ce que tu veux. Au niveau des gens qui se sont laissés aller et qui ont fauté. Là, normalement, une personne comme ça, Rabbi Shimon, il aurait dû le broyer. Il dit, mais attends, déjà, tu passes pas toute la journée à étudier la Torah. En plus, d'accord, bah, tu travailles. En plus, tu te laisses aller à la faute. En plus, tu fautes et en plus, de plein gré. Dis-moi, on voit comme ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Shimon, comme on voit dans la référence 7 et 8, Rabbi Shimon Bar Yochai était là à défendre même les Rechaïm, même les gens impurs et même les Rechaïm. On va lire, je vais lire et on va commenter. C'est la Gemara Shabbat, c'est une traduction de la Gemara Shabbat, page 33, référence numéro 7.
Comment il a changé en un an, deux mois?
Il n'a pas, c'est ce que je viens t'expliquer, il n'a pas changé.
Il s'est mis à niveau.
Il n'a pas changé.
Non,
il est descendu.
Il est descendu de niveau.
Tout en restant en haut, il est descendu. Parce que la preuve, encore une fois, c'est que si tu dis qu'il a changé, dans ce cas-là, ça ne serait pas passé ce qui s'est passé à sa mort. Tu comprends? Rabbi Shimon est resté le même. Seulement, ce qu'il a appris pendant ces fameux 12 mois, ce qu'il a appris, c'est qu'il a appris tout en restant haut à descendre bas. Vous savez, il y a un texte dans la Gemara qui dit, où on voit la grandeur de Dieu, c'est du fait qu'il est capable de se mettre à la portée de tout le monde. On dit comme ça aussi de Shlomo Amelech, le roi Salomon. On dit, où on voit la grandeur de l'intelligence du roi Salomon, c'est qu'il était capable d'expliquer n'importe quelle idée à n'importe quelle personne. Il prend le plus grand des imbéciles, il est capable de l'expliquer. On dit que Shlomo Amelech Vaidaber Shloshet Alafim Mashal. Il était capable de prendre un concept le plus élevé possible et te descendre 3000 fois. C'est-à-dire mettre un exemple et l'exemple de l'exemple et l'exemple. Ça veut dire, c'est très difficile ça. C'est-à-dire de descendre 3000 fois de niveau. Pour rendre ça, il est capable de prendre n'importe quel concept et de le faire comprendre à un bébé. Un bébé chmar. Voilà, la totale.
La même idée,
Rabbi Shimon, Shlomo Amelech, t'es capable de faire ça. Ça veut dire que comment on voit l'intelligence d'un homme? Comment on voit la grandeur d'un homme? C'est lorsqu'il est capable de descendre le plus bas possible. Si t'es pas capable de descendre, c'est que toi t'es pas assez grand. Si tu dis, oh, moi je suis trop grand. Non, si tu dis que t'es trop grand, c'est que t'as rien compris. La vraie grandeur d'un homme, c'est quand il est capable d'adapter ça à n'importe qui. D'ailleurs, on le voit par exemple ça dans le commentaire, je veux pas rentrer dedans, mais dans le commentaire de Rashi. Cette force de synthétiser. Revenons maintenant à Rabbi Shimon. C'est pas que Rabbi Shimon a changé. Au contraire. C'est qu'avec sa grandeur, il a tellement grandi que sa grandeur lui permettait de s'adapter au niveau de n'importe qui. Que même un juif qui va aller jeudi faire des grillades, et que pour lui, la loi de Rabbi Shimon, c'est les grillades, Rabbi Shimon, il nous dit, t'as participé à ma fête, je suis là pour toi. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, quand je vois ça, j'ai déjà été, bon, j'ai pas été le jour de la Guamère, j'étais ailleurs parce que j'étais dans l'état Louron, mais quand j'entends et je vois ça, au début, t'as un peu un sentiment de répulsion. Tu dis, mais attends, et où là, Rabbi Shimon, Zohar,
Griade.
Quel rapport? Et le steak, il était bon. Remets un coup, rajoute un peu de sauce. C'est pas assez grillé. Mais tu dis, mais attends.
Un petit coup.
Allez, rajoute-nous.
Un coup de jaja.
Mais où on est? Va te dire, Rabbi Shimon, il dit, je suis là pour tout le monde. Je suis là même pour celui que pour lui, Rabbi Shimon, il sait pas ce que c'est. Tout ce qu'il sait, c'est que Rabbi Shimon, il est grillade. C'est fort. Comprenez? Ah, bien sûr qu'on fait la simcha pour Rabbi Shimon, c'est normal. Quand je parle des grillades, je j'ai rien contre les grillades. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas. Oui, bien sûr, c'est la joie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas réduire Rabbi Shimon à des grillades. Non. Voilà. Alors voilà, mais seulement concrètement, moi je connais des gens que pour eux, la seule chose qu'ils connaissent, Rabbi Shimon, c'est ça. Et pourquoi c'est pas un problème? Parce que c'est ça la force de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, je suis adapté à n'importe qui, n'importe quelle personne. Ce juif-là, il commence par les grillades. Après, il va dire, bon, finalement, c'est qui sur Rabbi Shimon? Et il va découvrir. Faut qu'il va comprendre qu'il sur Rabbi Shimon, il a écrit un Zohar, il a écrit la profondeur de la Torah, etc. Ça, c'est la force de Rabbi Shimon. Alors, je voulais lire la référence 7 et 8. Dans la référence 7, on nous raconte ce qui est, c'est la Gemara Shabbat, page 33 que j'ai cité tout à l'heure, c'est la suite. Qui vous raconte ce qui s'est passé lorsque Rabbi Shimon est sorti. Le même Rabbi Shimon qui a brûlé le monde. Ce même Rabbi Shimon. Lorsque un an plus tard il sort et qui décide de s'adapter. De descendre, de s'adapter. Bitsiato Shal Rashbi. Donc, lorsque Rabbi Shimon est sorti de sa grotte, il pose une question, il dit, Yesh Davar Atzarif Tikkun. Il pose la question suivante, il dit, est-ce que quelque chose doit être réparé? Ça veut dire, la première chose qu'il se demande, c'est quoi? Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être réparé? Au sens littéral et au sens figuré. Réparer. Amroulo, ils l'ont dit, donc les sages l'ont répondu, Yesh makom boyeshno safektuma. Comme j'ai expliqué ce matin, que Rabbi Shimon était un expert dans la loi de l'impureté. Et le problème qu'on avait à l'époque, c'est que parfois il y avait des rues, on faisait des recherches, on faisait des fouilles, ou on faisait des fois même simplement des travaux, et on trouvait des ossements de morts. Donc si tu trouves un ossement, ça indique qu'il y a un cimetière. Mais tu sais pas où démarre, où termine le cimetière. Donc toute la rue est bloquée pour les Kohanim. C'est-à-dire que le Kohen, maintenant, pour aller, il va aller de chez lui à la synagogue, il ne peut plus marcher dans cette rue. Parce qu'il n'a pas le droit, donc il doit contourner la rue. C'est très embêtant. Après, on fait des fouilles à côté, on trouve. Donc, du coup, le Kohen, il n'est plus où marcher.
C'est un champ miné.
Non, c'est même pas un champ. On bloque toute la rue. Alors, on a dit à Rabbi Shimon, on l'a dit, oui, il y a des rues bloquées pour les Kohanim. Et que comme vous n'étiez pas là, les Kohanim sont très dérangés par ça. Alors. Yesh, c'est la Kohanim Tsar, Bekar, Jetrim, la Kitma, comme c'est les Kohanim, ont de la peine qu'ils doivent chaque fois contourner cet endroit. Amar, Otozaken, l'ancien dit, Tiher, Ben Yochai, Betagvarot. Ben Yochai, donc Rabbi Shimon, a purifié le cimetière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des rues entières qui étaient déclarées cimetières. Et Rabbi Shimon, il est venu. Il avait des techniques qu'on connaît pas forcément toutes. Il dit, creusez-moi ici. Creusez 5 mètres ici. Creusez 5 mètres là. Il n'y a rien. Ah, c'est bon. La rue est partie. Tac, 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 tac. Il a purifié des rues entières. Maintenant, ça c'est au sens littéral. Au sens littéral, il y avait des rues, il y avait des ossements, il les a purifiés. Maintenant, au sens figuré, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de l'impureté du mort. Rabbi Shimon, il sort de sa grotte, dans laquelle il était dans la Torah. Et quelle est la question qu'il pose? Est-ce que quelque chose doit être réparé, au sens figuré? On lui répond, on lui dit, l'impureté du mort. Il répare l'impureté du mort. Le terme de la Gemara, Ben Yochai, purifia le cimetière. Vous savez, dans la Gemara, il y a toujours le sens littéral, le sens figuré, c'est de la Gada, ça. Vous voyez, c'est Rabbi Shimon, il descend au niveau d'une personne qui a un niveau d'impureté. Pas seulement ça. Gemara Souka, juste en dessous, référence numéro 8. Amar Rashbi a dit, alors, ce que je vais vous lire, ça va vous avoir l'air un peu prétentieux, mais en fait, c'est pas du tout prétentieux. C'est une grande force de la part de Rabbi Shimon de prendre ça sur ses épaules. On va lire ensemble, référence numéro 8. Amar Rashbi a dit.
Il reste combien de temps?
5 minutes.
Je peux filmer ou pas?
Hein? Non, c'est pas bon. Amar Rashbi a dit. Yachol ani liftor et kol alam kulo minadin. Miyosh et nibriti ad ata. Rabbi Shimon a dit, je peux acquitter le monde entier du jugement minayom chez nibriti ad ata. Depuis le jour de ma création jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Rabbi Shimon il débarque, il dit voilà, moi maintenant avec mon mérite, moi Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux acquitter le monde entier depuis le jour où je suis né jusqu'aujourd'hui. Maintenant, Vein Malé Eliezer Benimi, si El Hazar, mon fils, est avec moi, Miyam Shenivra Aolam Veadarshav, je peux acquitter le monde
depuis la création
du monde jusqu'à maintenant. Vein Malé Yotab Benouziyahu Imanu, et si une autre grosse pointure, et Yotab Benouziyahu est avec nous, ça veut dire que si on a le trio, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui dit ça, hein, Rabbi Shimon, Rabbi El Hazar, et Yotam Enouziyahu, eh ben à nous trois, on peut acquitter le monde, Miyam Shenivra Aolam, depuis le jour où le monde a été créé, Atsofo jusqu'à sa fin. Jusqu'à la fin.
Alors c'est Yotam Benziyahu qui a le plus de mérite. Hein.
Non, il faut les trois, d'accord.
Ouais, mais bon,
Donc attendez, non mais attendez, là vous voyez le paradoxe là. Ça veut dire que le même Rabbi Shimon que tu as à nous dire au début de la page, il disait Torah 24/7. D'accord, 24/24, la Torah qui est pas ta bouche. C'est le Rabbi Shimon. Il descend, il dit, bah, écoute, finalement, schéma le matin, schéma le soir, c'est bon. Bon, il dit, c'est quoi? Impureté? Pas grave, on s'occupe. On purifie le cimetière. Et après, c'est le Rabbi Shimon, il dit, attendez, vous avez fauté, de plein gré. On gère, on prend sur nous. Vous avez fauté il y a 10 ans, on prend sur nous. Vous avez fauté avant ma naissance, attendez, je prends Elazar, mon fils. Vous avez fauté dans 100 ans, et pas de problème, je prends Yotam Benazi, on prend tout. Comment ça fonctionne? Vous voyez le paradoxe? C'est fou comme paradoxe. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, on voit comment Rabbi Shimon a ce pouvoir d'un côté d'être très, 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 très élevé. Et d'un autre côté, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. No capiche, comme tu dis, hein. Mais d'un autre côté, il a cette capacité de descendre au niveau de n'importe qui. C'est extraordinaire. Là-bas, on dit que, donc c'est ce qu'on dit, Yachol Ani Liftor.
C'est un peu comme le cours de la semaine dernière, excuse-moi.
Attends, on va terminer. Ah, mais là, c'est une autre dimension, là. Ah, c'est une autre dimension, là. Tu imagines? Jamais dans la Guémara ou dans le Zohar, on a eu un autre maître qui a parlé comme ça. Vous savez comment il faut être prétentieux pour dire ça? C'est pas prétentieux, mais je veux dire, il faut être sûr de son coup pour dire ça. Pour dire, moi, avec lui et lui, mais non, c'est pas qu'ils vont arrêter de fauter. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que dans toute la vie de Rabbi Shimon, il n'y a pas eu l'arc-en-ciel. Je vous rassure, les Juifs vont fauter. Ils ont pas arrêté de fauter. Ils ont fauté. Mais le mérite de Rabbi Shimon était tellement fort que Dieu ne pouvait pas punir.
Ça veut dire aussi autre chose. Que dans sa génération, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Ça veut dire que, de la même manière que le Kohen Gadol, il va à chacun, etc., il a fait en sorte que les autres aussi aient du mérite par eux.
Ah oui, mais non, attendez, ils ont fauté. Ça veut dire, en d'autres termes, regardez, il n'a pas dit, il faut bien lire ce qu'a dit la Gemara. Rabbi Shimon n'a pas dit, je peux faire tchouva à tout le monde. C'est pas ce qu'il a dit. Il peut faire, mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je peux acquitter tout le monde, le monde entier du jugement. C'est-à-dire, on parle d'une personne qui a fauté. Il a fauté. Et que quand il arrive en haut, c'est fini. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, Rabbi Shimon, une personne, je peux l'acquitter. C'est extraordinaire.
Il dit aussi réparer.
Oui.
Et s'il répare. Donc
ça s'est réparé, mais après, c'est pour ça que je dis qu'il y a la référence 7, la référence 8. La référence 7, il purifie le cimetière. Il dit bon, eh bien, un cimetière, on va le faire tchouva, etc. La référence 8, il fait même pas faire tchouva. Il a même pas fait faire tchouva. Il te dit, même si le gars, il n'a pas fait tchouva et qu'il arrive en haut, il lui dit, attends, Rabbi Shimon, il est venu chez toi, il t'avait fait tchouva, t'as dit non. Il te dit, viens, on purifie le cimetière, t'as dit non, Rabbi Shimon, sors de chez moi. Qu'est-ce qu'on fait avec un type comme ça? Eh bien, il te dit, Rabbi Shimon, tu sais quoi? Je gère. Comment tu comprends ça?
Je prends sur moi.
Ça, c'est un tzaddik d'une envergure exceptionnelle, extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Jamais, ni avant, ni après, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a cette proximité avec Rabbi Shimon. N'importe quelle cette proximité. Parce que voilà, on sent que d'un côté, il est très, 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 très élevé. Et d'un autre côté, il est là à ta portée. Il s'occupe de toi, comme ton père. C'est extraordinaire. Alors, on va tirer l'enseignement, on va s'arrêter là. Donc, on va tirer l'enseignement par rapport à l'enseignement de la Chassidoute. Vous savez, on nous parle de l'importance d'enseigner et de diffuser la chassidoute. Maintenant, la chassidoute, d'un côté, c'est quelque chose de très élevé. Et des fois, les gens ils vont venir un cours de Torah, un cours de chassidoute, un cours de Tania, etc. Ils vont se sentir largués. Donc ils vont dire, bon, tu vas dire finalement à quoi ça sert? Pourquoi tu veux prendre des choses tellement compliquées? Donne-leur des choses simples. Des choses simples, des choses qu'ils vont comprendre facilement, sans se prendre la tête, etc. C'est vrai, pourquoi tu veux te prendre la tête? Laisse tomber. On n'a pas le choix dans notre génération, on a besoin de ça dans notre génération. Parce que notre génération commence à proche de Mashiach, l'exil est très très puissant. L'obscurité est très forte. Et donc, il suffit de voir l'actualité pour voir ça. Donc l'obscurité est très 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 forte. Et donc on a besoin d'une grande force pour contrer ça. C'est quoi cette force? C'est la force du Zohar. La chassidoute est une adaptation du Zohar. C'est ça, c'est une adaptation et surtout une mise en pratique du Zohar. Donc c'est ça. Et donc, lorsqu'on te dit maintenant qu'on doit prendre la chassidoute, Un juif peut te dire, écoute, la chassidoute, c'est pour Rabbi Shimon, la chassidoute. C'est pour ceux qui sont tout en haut. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Eh ben non. C'est Dieu, le Rabbi, quand on s'approche de Mashiach, la chassidoute, on doit l'enseigner même aux enfants. Je cite, hein. Là, on l'a pas ici, mais, Afilou Liktanim. Oui, si, on l'a mis ici. Afilou Liktanim, même aux enfants. Même à un enfant. Pourquoi? Parce que c'est ça le paradoxe. Rappelez-vous le paradoxe de Rabbi Shimon. Être des maîtres très très haut, et en même temps descendre le plus haut possible. Donc on va terminer. Tsarich liyot yafutsu mainotera chutsa. Il faut diffuser les sources à l'extérieur. Les sources à l'extérieur. Je dis pas l'eau à l'extérieur, tu prends la source, tu la mets à l'extérieur. Les sources de la chassidut, les sources de la Torah, les sources du Zohar, les sources de la profondeur. Ribour shnak savot. Ça veut dire qu'on va lier les deux extrêmes. Yesh le'avi lorak me'anahar ve'lorak me'amayan ilayet amayan atzmo. On te demande pas seulement d'amener les eaux du fleuve à l'extérieur, les eaux de la Torah. On te demande pas d'amener, d'accord, un peu. On te demande d'amener le fleuve lui-même, la source elle-même de la Torah, de l'amener à des gens qui sont loin. Ve'et amayan yesh le'afitz, et cette source il faut la diffuser. Ve'gam chutza. Même à l'extérieur. At chutsa sheu bevadai chutsa. Maintenant, quand on dit l'extérieur, c'est quoi l'extérieur? C'est ce que la Torah appelle extérieur. Et extérieur mamash. Extérieur. Ça veut dire quoi extérieur? Ça veut dire des choses qui sont à côté de la plaque. Des gens qui sont à côté de la plaque. Des gens qui sont à des années-lumière. Quelqu'un qui est là, qui fait rien du tout. C'est même pas si qui pour. Tu dis, qu'est-ce que moi je veux venir avec quelqu'un qui vient chez moi Pacifique qui pour? Volontairement, je pousse un peu aux extrêmes, d'accord? Mais qu'est-ce que tu vas voir une personne qui chez moi Pacifique qui pour, tu vas commencer à lui parler d'enseignement de la Torah, de la Chassidou, le profondeur de la Torah? Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi tu fais ça? Attends d'abord, amène-le. Attends d'abord, enseigner progressivement un peu de Shulchan Aruch, un peu de Chumash, un peu de Mishnah. Après, tu passeras à la suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens, tu amènes un cours de Torah, un cours de Tania, un cours de pensée juive, et tu l'envoies la sauce. Il est pas là, il est pas à ce niveau-là, il est tout en bas. Il est tout en bas, il est à l'extérieur. Eh ben, dit le rabbi, Yafutsu mainotera, chutsa. Tu prends la source elle-même, pas les eaux de la source elle-même, tu la mets à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? C'est celui qui est out, celui qui est dehors. Et tu lui mets. Et tu lui mets directement dans sa bouche. Shegam aktanim shebador ilmedu pnimut haTorah. Que même les plus petits de la génération vont apprendre la profondeur de la Torah. Pour ça, on a raconté plusieurs fois cette histoire avec le joyau. Vous savez qu'il y a une fois, c'est une parabole qu'a raconté la Gemara Zaken pour défendre une accusation. Une fois, il raconte cette parabole. Une fois, il y a un roi qui a son fils qui est tombé gravement malade. Et on a appelé le plus grand docteur. Impossible. Personne n'a trouvé de guérison. À un moment, il y a un docteur qui est venu de loin, etc. et qui a dit la seule solution, c'est qu'on prenne le joyau de la couronne du roi. Qu'on le broie. Fasse une potion et qu'on essaye d'administrer cette potion à cet enfant malade et peut-être si on arrive à le faire goûter, si on arrive à le faire administrer ça, peut-être que ça pourra le guérir. Maintenant, vous comprenez que le joyau du roi, je sais pas combien de carats il pèse, mais c'est du lourd, c'est du très très lourd. Et c'est un joyau unique que tu ne trouveras pas un deuxième comme ça. Qu'est-ce que fait le roi? Le roi le broie tout de suite. Tu imagines? C'est la même chose. T'es en train de prendre des grands secrets de la Torah, tu les broies, etc. Tu dis pourquoi? Oui, parce que si même une goutte arrive à rentrer dans la bouche de l'enfant qui est malade, ça peut le guérir. C'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Vezé achana krova le'atima biat mashiach tikkun. Et ça, c'est une préparation à la venue de Mashiach, à la venue de Mashiach tikkun. Et comme a dit David, à juste titre, il dit qu'en vérité, on retrouve de façon très très forte chez le rabbi. Chez les grands tzadikis, mais moi, en tout cas, j'ai vu ça chez le rabbi clairement. Comment d'un côté, le rabbi, c'est un tzadique d'envergure extraordinaire que tu comprends pas du tout, tu commences même pas à comprendre. Et d'un autre côté, tu vois comment il se met à la portée des gens. C'est être capable de se mettre à la portée d'un enfant. De répondre à un enfant. Un enfant qui écrit un courrier. Je connais des amis à moi qui ont envoyé en tant qu'enfant, 7 ans, 8 ans, ils envoient un courrier au rabbi. Le rabbi répond au courrier. Où t'as vu ça? J'ai jamais vu, on n'a jamais vu juste comme ça. C'est même pas qu'il envoie le secrétariat, tu vois, qui va répondre, bon, envoyez-lui un petit truc, envoyez-lui une bande dessinée. Il répond à sa question. C'est-à-dire qu'il s'est adapté, il s'est mis à son niveau. Mais c'est ça ce qu'on attend de chacun de nous. On te dit, aussi grand que tu sois, et je l'espère, tu dois te dire que Be'ezrat Hashem, tu dois faire un effort pour descendre ça, pour faire descendre tout ça vers les autres. Et en particulier dans notre génération. Le challenge de notre génération, c'est quoi? C'est faire descendre la Torah le plus bas possible. Partout, 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 partout. Quand je dis partout, ça veut dire même dans des endroits où c'est à l'extérieur. c'est pas le domaine de la Torah. C'est pas la synagogue, c'est pas la maison d'études, c'est pas là, c'est pas dedans. C'est dehors. La Torah est, c'est en dehors de la Torah. Et ben il y a futsumanoté rachusa, les sources seront diffusées à l'extérieur. Alors on va terminer avec ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on comprend mieux la personnalité de Rabbi Shimon? Je ne pense pas. Moi honnêtement je comprends pas Rabbi Shimon. Mais en tout cas on comprend à quel point c'est un personnage très 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 élevé. Qui est très 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 bas, le plus bas que tout le monde possible. Et plus on avance dans le temps, et plus on voit comment le message du Zohar passe partout, partout, partout. Alors voilà, on le met. Après, on va le mettre à différentes sauces. On va le mélanger, on va le mettre, etc. Mais ce qui compte, c'est une goutte. Quand t'as un médicament, ce qui compte, c'est une goutte. Dès que t'as une goutte qui est rentrée, c'est bon, jackpot. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est essayer de prendre les messages de la Torah et les faire administrer à tout le monde. Même s'il y a une goutte qui va rentrer chez quelqu'un, on ne sait pas quel mot va faire décoller quelqu'un. Moi, des fois, je fais des cours, je parle pendant une heure, et des fois, tu dis un machal, une parabole, des passages comme ça, tu dis un mot. Et un gars, il te rappelle des années après, il dit, ouais, je me rappelle une fois, tu as fait un cours, moi, j'ai oublié que j'ai donné cette parabole, j'ai oublié complètement, c'est parce que pour moi, c'était un détail. Il dit, oui, t'as dit ce mot. Ce mot, il m'a parlé. Moi, je me rappelle pas de ça. Mais apparemment, c'est une goutte qui est rentrée en lui. Dans le cerveau. Et ça l'a travaillé. Va comprendre. Mais chacun de nous est comme ça. Parce que chacun de nous, on parle beaucoup. Et ben, t'as pas idée à quel point cette goutte, ça peut être une goutte, une toute petite idée qui va rentrer et qui peut changer complètement la vie d'un autre. Donc ça, c'est le message de Rabbi Shimon. Être très très haut, s'élever très haut dans la Torah, mais d'un autre côté, descendre le plus bas possible pour enseigner même aux enfants. Même aux enfants. Et je termine avec ça. Le Rabbi là-bas explique, il dit que les gens, beaucoup de gens pensent que les enfants, bon, c'est les enfants, ça, c'est un enfant, c'est pas grave, s'ils se respectent pas les uns les autres, s'ils ne suivent pas la Torah, c'est pas grave, c'est un enfant, il va grandir, c'est rien du tout. Alors c'était un calcul qui était effectivement vrai. Ce calcul était vrai, il fut un temps où le calcul était vrai, que Bémet, un enfant est un enfant. Quand il est enfant, il n'est pas capable de comprendre ce genre d'idée. Mais le Rabbi dit la chose suivante, plus on s'approche de Mashiach, et plus même les enfants. Alors quand je dis les enfants, c'est pas forcément l'âge sur le passeport. Quand je dis les enfants, c'est un enfant d'esprit aussi. Mais même les enfants, même un enfant aujourd'hui est capable de comprendre des choses profondes. Ça c'est un signe qu'on s'approche de Mashiach. Même un enfant est capable de vouloir étudier la Torah, de comprendre qu'il doit respecter son frère, qu'il doit partager avec son copain. Un enfant peut comprendre ça aujourd'hui. Il y a 100 ans, et 200 ans, un enfant ne pouvait peut-être pas comprendre ça. Aujourd'hui, plus on s'approche de Mashiach, plus on rentre dans une ère messianique et plus on peut comprendre ça. Un enfant peut comprendre ça. Ça, c'est. On voit comment petit à petit le message de Rabbi Shimon passe. Le plus haut possible descend le plus bas possible. Ça, c'est la Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Shimon nous a montré ça par son enseignement. Exactement. Voilà pour le paradoxe de Rabbi Shimon. Leilou Nishmat, Avinu Amfraji, Ben Simcha. Voilà. On verra après pour la vidéo.